de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La ministre indonésienne des Affaires étrangères invite la Lituanie à se joindre à la lutte pour mettre fin à la violence en Palestine. Lors de sa rencontre avec le ministre lituanien des Affaires étrangères, l'Indonésie a encouragé le développement de la coopération dans plusieurs domaines. Pour augmenter les visites touristiques japonaises, le gouvernement augmente la connectivité. L'ambassade d'Indonésie à Astana renforce les relations culturelles à travers des ateliers de batik. Le 16e sommet des Affaires Chine ALC se tiendra à Pékin. Voici le journal complet. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a invité de nouveau la communauté mondiale à soutenir les efforts visant à mettre fin à la violence en Palestine. Lors de sa rencontre avec le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, à Jakarta, lundi 30 octobre 2023, la ministre des Affaires étrangères, Retno, a déclaré qu'en trois semaines, plus de 7000 Palestiniens avaient été tués à Gaza. Selon elle, ce meurtre et ce crime doivent cesser immédiatement.
I reached out to Lithuania to join the call and urging for the immediate cessation of indiscriminate against.
J'ai contacté la Lituanie pour qu'elle se joigne à l'appel appelant à la cessation immédiate des attaques aveugles contre les civils et à garantir une aide humanitaire durable, sûre et sans entrave. En trois semaines, plus de 7000 personnes ont été tuées à Gaza, dont 68% sont des femmes et des enfants. Ce nombre n'est-il pas suffisant pour mettre un terme au massacre et entamer une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue maintenant à la cessation de hostilité? En outre, la ministre des Affaires étrangères, Retno, a également invité toutes les parties à maintenir la justice et l'humanité. Selon elle, il faut mettre fin à l'occupation illégale de la Palestine par Israël sur la base de paramètres convenus au niveau international. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a reçu la visite du ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, au bureau du ministère des Affaires étrangères à Jakarta, lundi 30 octobre 2023. Dans son discours, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que cette année marquait 30 ans de relations diplomatiques entre les deux pays et qu'elle devait donc être utilisée comme un élan pour améliorer les relations de coopération. Dans le secteur commercial, jusqu'à la mi-2023, La coopération entre l'Indonésie et la Lituanie a augmenté de 43% par rapport à l'année précédente. Cependant, selon Retno, ce chiffre ne montre pas encore le véritable potentiel de coopération entre les deux pays. Elle a donc demandé à la Gabrielus Landsbergis de soutenir l'augmentation des exportations de produits indonésiens vers la Lituanie.
To bolster our two-way trade and to ensure a more balanced trade, I sought Minister Landsbergis.
Afin de renforcer nos échanges bilatéraux et d'assurer un commerce plus équilibré, j'ai sollicité le soutien du ministère Landsbergis pour faciliter l'entrée d'un plus grand nombre de produits indonésiens sur le marché lituanien, notamment le caoutchouc, le papier et les meubles en bois. Et je me félicite que l'huile de palme indonésienne devienne l'un des principaux produits d'exportation vers la Lituanie. Avec près de 800 plantations en Indonésie déjà certifiées ISPO, je crois que l'Indonésie peut fournir de l'huile de palme plus durable à la Lituanie et au grand marché européen. En outre, la ministre des Affaires étrangères Retno a également exprimé son appréciation pour l'expansion des investissements de l'industrie aéronautique lituanienne à l'aéroport Ngurah Rai de Bali, y compris les vols charter et le nouveau transport aérien. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également souligné la coopération dans les domaines de l'éducation et des technologies de l'information. À ce sujet, il a déclaré que les deux ministres des Affaires étrangères se sont concentrés sur les discussions sur l'augmentation de la coopération entre les universités à travers la recherche conjointe et les programmes de double diplôme. La ministre des Affaires étrangères Retno a également encouragé une coopération plus étroite pour développer les technologies de l'information, pour que le système de transport terrestre et aérien, ainsi que pour renforcer les partenariats en matière de cybersécurité grâce au renforcement des capacités en ressources humaines. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que le gouvernement se concentrerait sur l'augmentation du nombre de touristes japonais en Indonésie, dont le nombre n'est pas encore revenu au niveau d'avant la pandémie. C'est ce qu'a transmis Sandi Uno dans le bref hebdomadaire avec Sandi Uno à Jakarta, lundi 30 octobre 2023. Sandiaga Uno a expliqué que selon les données du BPS, le nombre de touristes japonais en Indonésie cette année a atteint 150 000 sur l'objectif de 160 000 touristes. Cependant, selon Sandiaga Uno, ce chiffre est encore loin des 520 000 touristes atteints en 2019. C'est pourquoi le gouvernement améliorera la connectivité afin que plus de touristes japonais visitent l'Indonésie.
Ini masih jauh di bawah angka 520 ribu yang kita catat di 2019.
Ce chiffre est encore bien inférieur au chiffre de 520 000 que nous avons enregistré en 2019. Par conséquent, en 2024-2025, nous augmenterons le niveau de connectivité afin d'attirer davantage de touristes japonais. Actuellement, plus de touristes indonésiens se rendent au Japon. Nous voulons que le ratio est le même que celui de la pandémie, à savoir 2 pour 1. Sandiaga Uno a en outre expliqué qu'outre la connectivité, pour augmenter les visites des touristes japonais, le ministère du Tourisme et de la Communauté créative propose également aux touristes japonais le concept de tourisme vert, de tourisme familial et de tourisme communautaire. En outre, selon Sandiaga Uno, le ministère du Tourisme et de la Communauté créative a également préparé un tourisme d'entrée spécial, comme le tourisme de golf, étant donné qu'il savait que de nombreux touristes japonais aiment jouer au golf. L'ambassade de la République d'Indonésie à Astana, au Kazakhstan, s'efforce à renforcer les relations culturelles avec ce pays à travers un atelier collaboratif de bâtir entre les deux pays organisé au Centre culturel indonésien d'Astana. Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur d'Indonésie au Kazakhstan et au Tadjikistan, Fajrul Rahman, dans un communiqué de presse reçu lundi à Jakarta, a déclaré que cet atelier n'était pas seulement une démonstration technique, mais aussi une opportunité de nouer des relations, de partager des idées et de renforcer les liens culturels entre les deux pays. En travaillant ensemble, nous créons non seulement de magnifiques œuvres en batik, mais nous créons également des relations durables qui enrichiront notre compréhension des cultures de chacun. La souligner que la collaboration en Baltic vise à célébrer la créativité, l'amitié et la force culturelle qui existent dans les deux pays. Le 16e sommet des affaires Chine-Amérique latine et Caraïbes, ALC, se tiendra pour la première fois les 2 et 3 novembre à Pékin, dans le but de promouvoir le commerce et les investissements chinois dans cette région. Comme cité par Antara Langdi, le sommet se tient chaque année tour à tour en Chine et dans les pays d'ALC et a tenu avec succès 15 sessions à Chongqing, Hangzhou, Chengdu et ailleurs en Chine ainsi que dans d'autres pays dont le Chili, la Colombie, le Pérou et le Mexique. Le secrétaire général de la Chambre de commerce internationale de Chine, Sun Xiao, a déclaré qu'environ 400 représentants d'organisations internationales, de responsables gouvernementaux des pays d'ALC, d'associations professionnelles et d'entreprises avaient confirmé leur participation à ce sommet. Le sommet a réuni 26 pays d'ALC, y compris l'Argentine, le Brésil, le Chili et la Colombie. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Réunion du président avec 3 candidats à la présidentielle 2024 ». Le président Joko Widodo a tenu une réunion politique avec 3 candidats à la présidentielle qui se présenteront aux élections de 2024, lundi après-midi 30 octobre. Cette réunion semble être considérée comme une réponse à la question de la partialité de RI Ang envers l'un des pères candidats. Auparavant, l'un des responsables du parti soutenant l'un des candidats avait déclaré que le président devrait tenir une réunion avec les candidats à la présidentielle pour atténuer les problèmes qui circulent dans la société avant les élections. La réunion qui s'est tenue au Palais Merdeka à Jakarta s'est déroulée dans un cadre fluide et convivial avec un déjeuner ensemble dégustant une cuisine traditionnelle. Les candidats à la présidentielle Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto et Anies Baswedan sont venus sans le candidat à la vice-présidence respective et ont déjeuné avec le président Joko Widodo. L'invitation à ce déjeuner réunion avait été préalablement formulée par l'un des dirigeants du parti soutenant l'un des candidats à la présidentielle. On espère que cette réunion sera une bouffée d'air frais face aux problèmes largement répandus de partialité de RIA envers l'un des candidats à la présidentielle et à la vice-présidence. Ceci est lié à l'existence d'une famille du RIA qui est candidat à la vice-présidence. Le public est partagé entre le pour et le contre sur cette question, sans compter qu'elle a été précédée d'une décision de la Cour constitutionnelle que le public a jugée très controversée. Auparavant, le président Joko Widodo avait également exprimé son soutien aux trois candidats à la présidentielle pour le bien de la nation. Il a demandé à la communauté de rester harmonieuse et pacifique, même si elle a des choix différents et ne veut pas de division en raison des divergences électorales. Avant de rencontrer les trois candidats à la présidentielle, le président Joko Widodo a également rencontré les chefs régionaux temporaires dans toute l'Indonésie. Dans sa direction, le président a demandé aux chefs de ne prendre parti pour aucun candidat, d'être neutre, de soutenir la Commission électorale générale et l'agent général de surveillance des élections dans la mise en œuvre des élections et de maintenir l'harmonie au cours de l'année politique. Il semble que la rencontre et le déjeuner du président Joko Widodo et des futurs candidats à la présidentielle contiennent les mêmes choses que la rencontre avec les responsables régionaux temporaires, à savoir que l'enjeu est le maintien de l'harmonie et de la paix mutuelle. Mais de tout cela, le mot neutralité est le point central. Parce que la neutralité des responsables des partis prenants au sein du gouvernement favorisera la création d'une atmosphère propice et pacifique. De même, le souhait exprimé par les trois candidats à la présidentielle au président lors du déjeuner était la neutralité des dirigeants actuels, y compris RIA, face aux élections de 2024. C'est Juliette, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 31 octobre 1984. La première ministre indienne Indira Gandhi est assassinée. La première ministre indienne Indira Gandhi a été assassinée par deux de ses gardes de corps Sikh. Ce meurtre a été perpétré en représailles à une attaque militaire contre le temple d'or Amritsar, un sanctuaire Sikh qui est le siège du mouvement séparatiste. Les Sikhs sont un peuple qui adhère aux enseignements du sikhisme, une combinaison d'hindouisme et d'islam. Des émeutes éclatent à New Delhi et près de 10 000 Sikhs sont tués. Passons maintenant à l'événement du 31 octobre 2000, le vol 006 de Singapore Airlines s'est écrasé à l'aéroport de Chiang Kai-shek à Taïwan. Singapore Airlines, portant le numéro de vol SQ006, était un vol international d'avions de passagers reliant l'aéroport Changi de Singapour à l'aéroport international de Los Angeles avec un escale à l'aéroport international de Chiang Kai-shek, mettant l'aéroport international de Taïwan, Taoyuan, à Taipei, Taïwan. Le 31 octobre 2000 à 23h17 heure de Taipei, le Boeing 747-412 tentait de décoller de la piste de l'aéroport de Chiang Kai-shek lorsqu'un typhon a frappé. L'avion s'est écrasé sur du matériel de construction sur la piste et a tué 79 des 159 passagers à bord ainsi que 4 des 20 membres d'équipage. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée mondiale des villes. Chaque année, la Journée mondiale des villes est célébrée le 31 octobre. Cette journée a été déclarée par les Nations Unies (ONU) en 2013. La Journée mondiale des villes est célébrée pour sensibiliser à l'urbanisation et encourager la coopération mondiale en matière de développement urbain durable. C'est aujourd'hui tard, c'est à l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée « Indonésie s'engage à poursuivre la coopération KF ». XIFX avec la Corée du Sud, avec Maudry. Chargé d'État, le ministère indonésien de la Défense a déclaré qu'il restait déterminé à poursuivre sa coopération dans le développement des avions de combat Korean Fighter X ou bien KFX, Indonesia Fighter XIFX. Avec la Corée du Sud. Directeur de la technologie et de l'industrie de la défense, direction générale du potentiel de défense, ministère de la Défense de la République d'Indonésie, le premier maréchal de l'armée nationale indonésienne, TNI, Dedi Laksmono, a transmis cet engagement lors d'un atelier organisé par la communauté de politique étrangère d'Indonésie, FPCI, à Jakarta vendredi 26 octobre. Dedi Laksmono a déclaré que cette coopération est une coopération entre les pays et un programme national prioritaire. Quel que soit le gouvernement qui doit poursuivre le programme de l'État. Cette déclaration a été faite en réponse à la question du blocage des paiements sur l'engagement de l'Indonésie à partager les coûts du projet KFX-IFX, même si, selon l'accord initial de 2014, l'Indonésie s'est vue facturer 20% du coût total de développement de l'avion de combat, parallèlement 60% du coût total du projet qui a atteint 8 800 milliards de won, soit l'équivalent de 100 000 milliards de roupies, était à la charge du gouvernement coréen et 20% provenait de la société de construction aéronautique coréenne Aerospace Industries, KAI. En dehors de cela, Dedi a également admis que les limites du budget des recettes et des dépenses de l'État constituaient un obstacle au paiement de la part des coûts de l'Indonésie qui atteignaient environ 14 000 milliards de roupies jusqu'en 2026, notamment pour les phases de développement d'ingénierie et de fabrication. Selon lui, le ministère de la Défense alloue chaque année environ 1,5 billion de roupies pour contribuer au développement de KFX-IFX. Dedi, par conséquent, a déclaré que les gouvernements indonésiens et coréens continuent de négocier pour trouver une solution à ce problème. Dans le même temps, Wu Bongli, représentant en chef du bureau indonésien de KAI, a déclaré que la partie coréenne avait alloué autant de fonds que possible pour poursuivre le projet KFX-IFX. Wu Bongli a déclaré que son parti avait augmenté le budget autant qu'il pouvait, même en devant de l'argent à la banque. Wu Bongli espère également que les gouvernements des deux pays pourront rapidement trouver une voie médiane pour surmonter cet obstacle de financement afin que le partenariat entre la Corée et l'Indonésie puisse continuer à être maintenu. Lee a déclaré que les gouvernements coréens et indonésiens discutaient toujours de cette question pour trouver la meilleure solution. Grâce à la coopération dans le développement du KFX-IFX, l'Indonésie et la Corée produiront 120 avions de combat pour la Corée et 48 avions de combat pour l'Indonésie. De plus, l'Indonésie bénéficiera également d'un transfert de technologies qui encouragera l'industrie de défense nationale à produire des avions KFX-IFX pour le marché mondial. Bonjour, je vais tercer tout mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Dari hidupku, ku harap. tangisanku. Ku bersedih karena panas cinta menusuk jantung. Cinta menusuk jantungku.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter le Gulai Tambunsu. Le rendang, un plat typique de Sumatra occidental, est très populaire. Son caractère délicieux est reconnu non seulement par le peuple indonésien, mais également par les peuples du monde entier. Mais saviez-vous que le plat de Sumatra occidental n'est pas seulement du rendang? Il existe encore de nombreux plats typiques de Sumatra occidental qui sont également délicieux. L'un d'entre eux est le gulai tambunsu. Le gulai tambunsu est un aliment typique de l'ouest de Sumatra, notamment dans la région d'Agam. Ce plat a une forme unique parce qu'il est fabriqué à partir d'un testang de vache. C'est un testang de bœuf et rempli d'un mélange des œufs de poulet ou bien de canard bouilli et cuit dans une sauce au curry typique de Minangkabau. Le gulai tambunsu peut également être garni de pommes de terre, de tofu et de tempeh. Le processus de cuisson du gulai tambunsu, tout d'abord, les intestins de la vache doivent être correctement nettoyés avant de les remplir des œufs transformés. Chaque extrémité de l'intestin est étroitement liée afin que les œufs qui ont été insérés ne débordent pas. Les intestins contenant les œufs sont ensuite cuits avec des épices au curry, composé de lait de coco, d'échalotes, d'ail, de noix de bougie, de feuilles de citronnelle et de piment. À la consommation, la texture est moelleuse avec un goût très délicieux. Selon Uda Dian Anugrah, le membre du blogueur indonésien sur la cuisine, la clé du goût délicieux de la cuisine Minangkabau réside dans les ingrédients frais.
Salah satunya dan memang bahannya segar semua kayak daun-daun kunyit.
L'un d'entre eux est que tous les ingrédients sont frais comme les feuilles de curcuma et la citronnelle. Tout le monde cuisine le même curry, ce n'est pas très différent, mais c'est la composition. À Padang, les gens font preuve d'audace avec les épices. Ils utilisent plus d'oignons rouges, puis les piments mulu, sont vraiment frais, de sorte que dans l'ensemble, le plat est plus parfumé et plus agréable à déguster. À l'ouest de Sumatra, Tambunsu est présent à certains événements traditionnels de Minang. Ce délice culinaire se trouve également dans plusieurs stands ou restaurants répartis dans l'ouest de Sumatra. Et aujourd'hui, le gulai Tambunsu n'existe pas seulement dans l'ouest de Sumatra, mais également dans divers villes d'Indonésie. Le prix d'environ 20 000 rupies jusqu'à 30 000 rupies par portion. C'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger des radios République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Beratapkan Rumbia. Beratapkan Rumbia, ayant le toit de chaume. Bonne écoute. Chers auditeurs, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Beratapkan Rumbia. Beratapkan Rumbia, ayant le toit de chaume. Cette conversation se déroule entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et des habitants du village de Hilisi Maitano sur l'île de Nias. Le résident a décrit la partie omohada de la maison à Chris.
Ini rumah omohada. Rumah ini beratapkan rumbia.
Katanya, rumah ini tahan gempa ya?
Iya. Rumah ini disokong tiang-tiang kayu vertikal dan diagonal.
Chers auditeurs, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulé Beratapkan Rumbia. Beratapkan Rumbia, ayant le toit de chaume. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Beratapkan, beratapkan, ayant le toit. Rumbia, rumbia, de chaume. Rumah ini beratapkan rumbia. Rumah ini beratapkan rumbia. Cette maison a le toit de chaume. Tahan gempa, tahan gempa, résistant au tremblement de terre. Disokong, disokong, soutenu. Tiang tiang kayu, tiang tiang kayu, pilier de bois. Vertical, vertical, vertical. Diagonal, diagonal, diagonal. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase Rumah ini beratapkan rumbia. Rumah ini beratapkan rumbia. Cette maison a un toit de chaume. Dans cet énoncé, il y a le mot beratapkan. Beratapkan, avoir le toit. Le mot beratapkan, beratapkan, avoir le toit, signifie beratap. Beratap, avoir un toit, vient du mot atap. Atap, toit. Pour décrire une partie de la maison, par exemple un toit, vous pouvez utiliser le mot beratapkan. Beratapkan, avoir le toit, qui est suivi d'un mot qui décrit le matériau utilisé, comme rumbia. Rumbia, chaume. Maintenant, il y a d'autres exemples. Allons écoutons d'autres exemples d'utilisation de mots pour décrire des parties de la maison. Berlantaikan, berlantaikan, a des sols. Rumah omohada berlantaikan kayu. Rumah omohada berlantaikan kayu. Maison de omohada a du parquet. Berdindingkan, berdindingkan, a des murs. Rumah omohada berdindingkan kayu. Rumah omohada berdindingkan kayu. Maison de omohada a des murs en bois. Sur Jupiter, la maison de Mohada n'utilise pas de clous, mais des piquets. On pense que cela rend Mohada résistant aux tremblements de terre. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Ini rumah Mohada. Rumah ini beratapkan rumbia.
Katanya, rumah ini tahan gempa ya?
Iya, rumah ini disokong tiang-tiang kayu vertikal dan diagonal.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Bila kau ada di sini, kan terjawab semua tanya yang telah ada sekian lama di hatiku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers amis, C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, je vous donne une chanson malaise intitulée Rentak Danau Raja, chantée par Radhika Sofiani. La chanson Rentak Danau Raja a été composée par Andrigo. Cette chanson raconte du tourisme naturel au milieu de la ville de Rengat, région d'Indragiri Hulu, Riau, à savoir le lac Raja. Les paroles de Rentak Danau Raja parlent du magnifique paysage du lac Raja, un endroit où les gens peuvent s'amuser. Radhika Sofiani est une chanteuse diplômée d'un concours de recherche de talent organisé sur l'une des chaînes de télévision privées du pays. Ok, chers auditeurs, voici Rentak Danau Raja de Radhika Sofiani. Bonne écoute!
Indah sungguh suasana.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.